Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. On va se pencher ce soir sur Boko Haram, le groupe djihadiste nigérian désormais divisé en deux branches. L'une de ces deux branches, affiliée à l'État islamique, aurait tué 50 personnes la semaine dernière à Borno, dans le nord-est du Nigeria. Et quelques jours plus tard, ce sont des bandits, comme les a appelés le président nigérian, qui ont fait 57 morts des centaines de kilomètres plus à l'ouest, dans la région du Katsina. Et une question se pose, ces bandits, ces groupes criminels, ont-ils des liens avec Boko Haram? C'est en tout cas ce que pensent des chercheurs de l'International Crisis Group. Alors les djihadistes peuvent-ils étendre leur influence vers le nord-ouest du Nigeria, voire plus loin, jusqu'au Sahel? C'est notre décryptage du jour. Deux invités sont en ligne avec nous pour en parler. Bonsoir Vincent Fouché.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS et nous sommes en ligne également avec Corentin Cohen, post-doctorant au CNRS et à l'Université d'Oxford. Bonsoir.
Bonsoir.
Je le disais, donc Boko Haram aujourd'hui est divisé en deux groupes. Le premier, l'ISWAP, c'est l'acronyme anglais du groupe État islamique dans la province de l'Afrique de l'Ouest. Et l'autre, qui a aussi fait allégeance à l'État islamique, mais qui refuse de se soumettre au chef, Al-Barnaoui. Ce groupe-là est dirigé plutôt par des vétérans de Boko Haram, comme Aboubakar Shekaou. Vincent Fouché, est-ce que ça a du sens aujourd'hui encore de parler de Boko Haram, ou bien en fait ces deux branches sont trop éloignées ?
Alors, les deux branches sont très distinctes, elles se sont affrontées à plusieurs reprises et elles ont des modes opératoires tout de même assez différents. Elles opèrent dans des territoires assez différents, même si par moment donc elles se rencontrent, hein, elles peuvent entrer en compétition pour le contrôle de certaines zones de population. La relation entre le groupe de Shekaou et l'État islamique est très ambiguë. Au fond, ils utilisent toujours la rhétorique et même l'appellation, hein, de la notion d'État islamique, sans obéir à l'État islamique central. Donc tout ça est ambigu, mais il y a quand même vraiment une différence entre les deux groupes.
Alors, comment la branche État islamique de Boko Haram, l'ISWAP, est devenue si forte ces dernières années? Comment est-ce qu'elle a pris autant d'ampleur, Corentin Cohen?
Alors, pour comprendre en fait cette montée en puissance, il faut revenir à la division, à la séparation de ces deux branches en 2016, et en fait à deux modes de gestion du territoire, deux projets politiques qui sont un peu différents, comme l'a précisé Vincent. D'abord, du côté de Shekaou, on a une économie de pillage avec la mise à sac de tous les territoires, la récupération et la centralisation de tous les biens qui étaient saisis. De l'autre côté, le projet de l'État islamique, il s'est développé. Il y a une divergence qui est à la fois idéologique, mais qui concerne aussi le modèle d'État, hein, qui tente de mettre en place. C'est-à-dire que d'abord, l'État islamique va s'opposer à cette vision de Shekaou, qui qualifie toutes les populations qui sont proches du gouvernement ou qui vivent sous son autorité d'impures, et qui les voit finalement seulement comme des ressources, des biens. Alors que donc l'État islamique va plutôt essayer de développer une approche qui va favoriser ces populations et qui va beaucoup plus se focaliser sur les forces armées nigérianes et celles de la région. Et à partir de là, l'État islamique en 2016-2017, sur la partie du lac Tchad qui contrôle et dans lequel il affronte parfois la faction de Shekaou, va mettre en place une manière de gouverner, va se renforcer, il va bénéficier aussi de l'attention de la communauté internationale et du Niger, de l'armée, qui se porte particulièrement sur Shekaou, et va bénéficier d'une forme, non pas d'entente, mais un peu de cessez-le-feu et de cette focalisation pour mettre en place cette forme de gouvernement et croître.
Vous nous parliez du rapport à la population de l'ISWAP, donc de cette branche de l'État islamique. Pendant un certain temps, ce groupe a vraiment épargné les civils et il semble que ça se soit en train de changer, Vincent Fouché.
Oui, effectivement. On a ces derniers temps des incidents, l'ISWAP qui attaque fait des morts parmi la population civile. Mais pour le moment, c'est vrai que ça reste dans des circonstances assez particulières. Hein. Eux-mêmes disent que, au fond, ils s'attaquent à des civils parce qu'ils sont, au fond, des miliciens alliés au gouvernement. Peut-être aussi des questions de fiscalité, hein, comme Corentin Cohen l'a signalé. ISWAP essaye de garder sous son contrôle des populations et de ne pas trop les pressurer ne pas trop les violenter, ne pas trop perturber leurs activités économiques, aussi pour pouvoir les taxer, aussi pour pouvoir les utiliser pour s'approvisionner, donc une sorte de gouvernance beaucoup plus soft hein, que celle de chez KO. Et donc, en fait, la question fiscale, hein, la question de la levée d'argent par l'ISWAP, elle est vraiment très importante. Donc, il n'est pas évident que, encore évident en tout cas, que du côté de l'ISWAP, on a vraiment une remise en cause de cette doctrine, disons, relativement modérée par rapport aux civils. Ils ont récemment fait une grosse attaque sur Monguno, hein, qui est une des grosses villes du Borno. Ils ont distribué des tracts précisant bien qu'ils n'en avaient pas après les civils, mais que si les civils se trouvaient à proximité des militaires, ils pouvaient éventuellement être des victimes collatérales. Donc il me semble qu'il est encore un peu tôt se prononcer définitivement sur un vrai basculement dans la doctrine au sein de l'ISWAP.
C'est pas forcément, pour l'instant en tout cas, un changement de stratégie. Vincent Fouché, est-ce qu'on a une idée du matériel dont disposent les djihadistes dans cette zone aujourd'hui ?
Alors, on a une assez bonne idée parce qu'ils sont, et surtout l'ISWAP, hein, ils sont très prolixes en vidéo. Ils communiquent énormément là-dessus. Ils envoient aussi des photos des butins de guerre, hein, notamment parce que l'État islamique, au fond, gouverne à distance ses relations avec ses provinces en regardant précisément les bilans matériels, humains, les armes saisies, les véhicules détruits et les ennemis tués. Donc il y a un vrai souci de la documentation chez ISWAP. On sait assez bien, essentiellement, et c'est le cas aussi pour chez KO, les deux branches de Boko Haram en activité, elles fonctionnent grâce aux armements pris aux armées de la région, hein, dans la longue série de combats qui les opposent depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est vraiment très largement, il y a pas du tout de signes tangibles, par exemple d'armes. On a beaucoup parlé à un moment d'armes venant de Libye. Il n'y a pas de signes vraiment tangibles de ça. Pour le moment, tout ce qu'on voit, ce sont des armes qui viennent de l'armée nigériane, de l'armée camerounaise, de l'armée nigérienne.
Qui sont effectivement des armes que ces groupes ont récupérées en fait au fur et à mesure des attaques. Est-ce qu'il y a quand même du matériel nouveau, des équipements qu'ils n'avaient pas il y a quelques années et dont ils disposeraient aujourd'hui ?
Non, il n'y a vraiment rien de frappant de ce point de vue-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est un appétit, un apprentissage, une amélioration des tactiques, de l'expérimentation, hein, des fabrications de fusées artisanales ou l'utilisation de création de lance-roquettes un peu artisanaux en utilisant des roquettes capturées sur des lance-roquettes de l'armée nigériane. Donc on voit comme ça une vraie capacité à l'apprentissage qui est entre autres encouragée hein, par l'État islamique central qui envoie des conseils à distance, des vidéos, hein, des tutoriels pour encourager sa province dans le Borno et l'aider à améliorer ses techniques militaires.
Est-ce que, Corentin Cohen, on peut mesurer une différence de force entre l'ISWAP aujourd'hui, la branche de l'État islamique, et puis la branche dirigée par Cheikh Aou ?
Oui, on voit cette différence parce que, en fait, le modèle prédateur de Cheikh Aou, cette capacité, enfin, ces actions permanentes de prédation, de pillage, le massacre de populations qui sont considérées comme impures, c'est-à-dire celles qui sont en dehors de ce qui a été appelé par le groupe la maison de l'islam, en fait, elles ont progressivement affaibli le groupe, ont cassé son potentiel militaire et sa capacité à se développer. Et donc, on voit que finalement, ils retournent à des actions qui étaient celles plutôt de sa montée en puissance hein, dans les années 2012-2013, avec des attaques où le groupe récupère quelques biens, un peu de nourriture, et puis se retire immédiatement en essayant aussi de faire pression sur les populations et éventuellement de recourir à la conscription de jeunes soldats. Mais on voit que ce potentiel militaire a été est largement affaibli. Et que ça a condamné le groupe, alors que justement l'État islamique et la faction ISWAP, dans son tentative de développer un autre modèle, a pu monter en puissance. Et ça, il me semble que c'est aussi largement favorisé par la stratégie qui a été mise en place au niveau militaire par l'armée nigériane. C'est-à-dire que l'armée se concentrait un moment sur Cheikh Aou, l'armée nigériane. et a eu un mouvement à partir de 2016, et ça a été croissant, de concentration urbaine, de fortification autour de Maïdougouri. Et donc, en concentrant les garnisons, en réorganisant toutes les activités économiques autour de Maïdougouri, elle a laissé de la place à l'État islamique pour grandir et pour développer ses activités économiques, pour taxer et pour se renforcer, augmentant ainsi son potentiel, sa capacité militaire.
Cette branche justement de l'État islamique, l'ISWAP, a mené récemment des attaques au bilan très lourd. 50 morts au Nigeria et puis de l'autre côté de la frontière au Niger, dans la région de Diffa, il y a eu 4 attaques en seulement un mois. Comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut comprendre ce regain d'attaques maintenant, Vincent Fouché ?
Alors bon, il y a sans doute une dimension saisonnière. Hein. La mobilité est affectée par les pluies, et donc ça a un impact aussi sur le rythme. Et les armées de la région ont plus de mal à se déplacer quand il a plu, et c'est plus facile pour les groupes insurgés quand il a plu, en tout cas au début. Ensuite, c'est difficile de se déplacer pour tout le monde quand il a beaucoup plu. Donc ça, c'est un facteur. Et puis par ailleurs, au fond, c'est un peu une sorte de d'aller-retour. Hein. On a eu une poussée voici quelques mois des forces des États de la région. On a aussi eu au premier trimestre 2020, au sein de l'État islamique de l'ISWAP, des tensions très fortes qui ont abouti à la mort, hein, à la mort violente de plusieurs responsables importants. Et il me semble que l'ISWAP, au fond, est peut-être en train de retrouver son équilibre interne. Alors peut-être de manière temporaire. Hein. Il y a des tensions, il y a du factionnalisme dans le groupe. Qui peut revenir. Et il me semble que cette sorte de relance, elle peut s'interpréter sur ce nom de ces différents aspects.
Alors, je le disais au tout début de cette émission, plus de 57 personnes ont été tuées la semaine dernière au Katsina, dans le nord du Nigeria. Là, ce sont des groupes criminels qui sont pointés du doigt, mais dans un rapport récent, le Centre de Recherche International Crisis Group soulignait que les deux factions issues de Boko Haram cherchaient à étendre leur influence vers l'ouest, donc exactement dans cette zone du Katsina, par exemple. À votre connaissance, Corentin Cohen, est-ce qu'il existe déjà des liens entre les djihadistes qui sont actifs dans le nord-est, vers le lac Tchad, et puis des groupes criminels qui seraient à plusieurs centaines de kilomètres de là, plus à l'ouest ?
Alors, il faut bien comprendre que les épisodes dont vous parlez dans la région du Katsina, et puis plus largement dans ce qu'on appelle la Middle Belt, hein, le centre du Nigeria et notamment l'État de Plateau, sont pas forcément connectés. Dans le centre, cette criminalité dont on parle, elle a trait souvent à des conflits entre éleveurs et fermiers.
Et, ce qui était le cas encore la semaine dernière d'ailleurs au Katsina.
Exactement. Et elle est souvent mise en scène, notamment par des coalitions d'acteurs qui parlent de génocide de populations chrétiennes, qui mettent en accusation ces tribus et ces éleveurs qui sont Fulani, comme étant responsables et comme faisant partie de l'organisation de l'État islamique, comme étant des djihadistes. Néanmoins, c'est d'abord une énorme campagne de communication qui est menée par un certain nombre d'acteurs, notamment des églises du réveil, qui sont pris en charge cette question et qui essayent de plus en plus de faire du lobbying en Europe, aux États-Unis, pour imposer cet agenda en se servant de Boko Haram comme prétexte pour attirer l'attention sur la situation dans le Katsina, Kaduna, Plateau. Ce qui ne veut pas dire pour autant, et notamment au vu des différentes tensions qu'il y a eu au sein de l'organisation ISWAP, qu'il ne puisse pas y avoir des liens. D'abord, parce qu'il y a eu la réactivation d'un groupe qui reste encore un peu mystérieux, Ansaru, qui était une organisation qui était liée à Boko Haram, qui s'en est séparé, s'en est rapproché et qui a refait une apparition depuis un peu plus d'un an, notamment dans des régions un peu plus proches du centre. Et puis, à l'aune aussi de certains événements qui ont lieu dans la région de Sokoto, dans le nord-ouest, où on peut s'interroger sur vraiment la tentative de récupérer des groupes de bandits du Sokoto qui se seraient peut-être affiliés à l'État islamique. Et on a vu qu'il y avait notamment eu une attaque en octobre dernier qui a été revendiquée par l'État islamique dans une région, a priori, elle n'était pas présente.
Donc c'est plutôt peut-être une tentative de récupération. Et ça vous semble crédible qu'il y ait des liens solides, ou est-ce que c'est plutôt une opération de communication dans le cas que vous citez ?
Pour l'instant, on est beaucoup plus sur une opération de communication, de propagande, pour essayer de montrer qu'il y a une continuité et donner de l'ampleur à ce front. Néanmoins, il peut y avoir des tentatives et on peut s'interroger sur la tentative de s'implanter dans la région de Sokoto et dans l'état de Zamfara, à la frontière du Niger et du Bénin, où il y a une tradition, où il y a des hommes en armes qui pourraient être récupérés par ce mouvement et s'identifier.
Alors, d'après des experts de l'ONU, l'État islamique au Grand Sahara, donc au Sahel, pourrait se renforcer en faisant lui aussi appel à des combattants du Nigeria. Corentin Cohen, est-ce qu'il existe, à votre connaissance, des passerelles de ce type aujourd'hui entre les deux entités de l'État islamique, la branche sahélienne et l'ISWAP au Nigeria ?
Pour l'instant, on est beaucoup plus là aussi sur des connexions qui sont avant tout médiatiques, c'est-à-dire orchestrées par l'État islamique central, avec la mise en commun de certaines vidéos et même la désignation parfois de manière un peu irrégulière de ces deux entités alternativement. Ce qui est possible d'imaginer, c'est que, et on le sait, hein, il y a eu par le passé des circulations de combattants et des liens, des formations communes avec des groupes qui étaient plutôt liés et qui étaient installés en sud de l'Algérie, au Mali. Et donc, il est possible d'imaginer ces liens. Pour l'instant, on ne parle pas de liens et on peut même se demander si la stratégie de l'EIGS, qui a quelque chose parfois d'un peu indiscriminé, serait vraiment compatible avec ce que, dans les dernières années, l'ISWAP a tenté de faire, quoi.
Oui, donc il n'est pas certain que les deux groupes, en fait, puissent établir le même genre d'approche. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot de ce que peut faire le Nigeria. On l'a évoqué un petit peu, parce que notamment le Tchad et le Niger se plaignent du peu d'actions menées par le Nigeria. On a appris, là, hier, que le président nigérian venait d'approuver une opération commune de la police et de l'armée contre les terroristes. Donc c'est quand même assez vague comme appellation. Vous avez parlé, Vincent Fouché, tout à l'heure de la saison des pluies. Elle commence. Souvent, à cette période, les militaires se retirent vers les villes. Est-ce que c'est une période durant laquelle les djihadistes ont les mains libres ?
Oui, ils sont moins menacés. Alors maintenant, une des choses quand même un peu significatives du point de vue de la réponse des États dans la région, c'est quand même un renforcement un peu constant ces dernières années des moyens aériens qui ont un gros impact. Hein, quand on discute avec des gens qui ont vécu soit comme captifs, soit comme militants avec Boko Haram, ils disent tous que les attaques aériennes sont vraiment le véritable problème, parce que les attaques terrestres, au fond, ils les voient venir et donc ils se déplacent. S'échappe, mais les attaques aériennes, ça vient un peu n'importe quand. Et c'est quand même un des facteurs de fond. Hein. On voit de plus en plus quand, et d'ailleurs notamment dans la grosse attaque sur Mongono, c'est au fond à la sortie de Mongono que la colonne des combattants de ISWAP s'est fait rattraper par les forces aériennes et qu'ils ont pris des pertes. Donc voilà, je pense qu'il faut pas, la situation est très préoccupante. Il ne faut pas non plus noir sur le tableau. On entend aussi que au sein même des deux factions de Boko Haram, il y a quand même des défecteurs, des gens qui veulent quitter l'organisation, qui essayent d'explorer des chemins de sortie.
Oui, l'armée nigérienne a beaucoup communiqué là-dessus d'ailleurs dernièrement.
Exactement, oui, tout à fait. Mais c'est, alors bon, évidemment, c'est aussi un travail de propagande, hein, mais il y a un vrai effort qui est fait, notamment au Nigeria, pour essayer de renforcer ces sorties-là. Mais de fait, ces sorties sont effectives. Hein, ça fonctionne aussi. Maintenant, le problème, c'est que, au fond, pour les populations civiles, on leur laisse le choix entre un État qui est présent essentiellement sous la forme militaire et de manière très intermittente, et puis l'organisation qui arrive à être présente dans les campagnes, ce sont les djihadistes. Et c'est vrai qu'ils ont, notamment chez ISWAP, cet effort pour essayer de se comporter correctement. Et donc, au fond, si le choix, c'est être dans des camps de réfugiés misérables à la périphérie de villes
fortifiées. Oui, c'est ça. En fait, ces groupes proposent une alternative que l'État n'offre plus depuis longtemps, en fait. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission. Vincent Fouché, chercheur au CNRS, et Corentin Cohen, post-doctorant au CNRS et à l'Université d'Oxford.